parabole du jour avec le Père Willem.
De la contestation à la transgression, hier nous avons évoqué des actes de folie de prophètes. Un autre acte de folie a été l'expulsion des marchands du temple de Jérusalem, de la part de Jésus. Pour l'entendre, il faut commencer par se souvenir de ce que représente le temple. Au temps de l'Évangile, il vient d'être reconstruit. C'est un édifice qui n'a jamais été aussi imposant. Il mesure 1500 mètres de périphérie et occupe une quinzaine d'hectares, soit 5 fois la superficie de l'acropole d'Athènes et 9 fois et demi celle de la basilique Saint-Pierre de Rome. Il est construit avec des blocs de pierre de plusieurs tonnes, riches en marbre, en bois précieux et en or. Flavius Joseph l'historien raconte avec un peu d'emphase que les pèlerins qui montent à Jérusalem avant de voir la ville sont éblouis par le soleil qui se réfléchit sur les feuilles d'or qui recouvrent la partie supérieure du temple. Il est construit selon une architecture qui reflète une théologie fondée sur la séparation et la hiérarchie. En entrant, on pénètre dans une première cour appelée parvis des païens où tout le monde peut se rendre, tout le monde sans exception. C'est dans cette cour que se trouvent les marchands d'animaux pour les sacrifices et les changeurs, car le temple a sa propre monnaie. Ensuite, on pénètre dans une seconde cour appelée parvis des femmes, dans laquelle seuls les juifs peuvent entrer. Dans cette cour, quelques marches permettent d'accéder ensuite au parvis d'Israël réservé aux hommes. Puis, un escalier conduit au parvis des prêtres où ont lieu les sacrifices. Et de là, on a accès au lieu saint et enfin au saint des saints dans lequel seul le grand prêtre peut entrer une fois par an. Selon ce que l'on est, grec ou juif, femme ou homme, laïc ou prêtre, prêtre ou grand prêtre, on peut se tenir dans l'une ou l'autre des cours du temple. En chassant les marchands, Jésus conteste radicalement cette religion qui repose sur la frontière et la séparation entre les hommes selon leur naissance. Par ce geste transgressif, Jésus n'ouvre pas un débat dans un salon de thé et s'oppose frontalement à un système religieux. C'est pourquoi le récit est situé dans un endroit stratégique des évangiles synoptiques, juste après les rameaux à l'entrée de la Semaine Sainte. Par son geste prophétique, Jésus touche aussi au porte-monnaie. Le monument était une formidable machine économique. On estime à 20 000 le nombre d'ouvriers employés en permanence pour la construction et l'entretien du bâtiment, sans compter les milliers de prêtres qui se relayaient pour assurer plusieurs centaines de sacrifices quotidiens. Au moment des grandes fêtes, c'est plusieurs dizaines de milliers d'animaux qui étaient sacrifiés. Toute l'économie de Jérusalem, avec des hôteliers, des tanneurs, des boulangers, des marchands d'animaux et des marchands de souvenirs aussi, tout est organisé autour du temple. En touchant au religieux et à l'économique, Jésus remet en question tout un système. Il en mourra d'ailleurs. Lors de son procès, la principale accusation portée contre lui concerne la contestation du temple. À partir de cet épisode, l'avenir politique de Jésus paraît compromis. En attaquant frontalement le symbole du pouvoir religieux et économique, Jésus enclenche la réaction d'un système qui n'attendra pas à le broyer. D'un côté, Jésus se présente comme un juif pieux qui accomplit les prescriptions de la loi et enseigne l'obéissance à la loi. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir, dit-il au début de sa prédication. Et il ajoute même, pas un ni, pas un point sur l'i de la loi ne pourra passer. Que tout ne soit réalisé. Oui, celui qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à le faire, sera tenu pour moindre dans le royaume des cieux. Tout ceci se trouve expliqué dans le chapitre 5 de l'évangile de Matthieu. Concrètement, nous le voyons demander aux lépreux guéris d'aller se présenter au prêtre et de faire l'offrande prescrite pour sa purification. Nous le voyons ainsi faire un miracle pour permettre à Pierre de s'acquitter de l'impôt. Mais d'un autre côté, et il faut bien l'avouer, beaucoup plus souvent, Jésus semble royalement mépriser les lois et les prescriptions pour se placer en quelque sorte au-dessus de la loi. Avec ces guérisons accomplies fréquemment le jour du sabbat, ne provoque-t-il pas ses auditeurs, les pharisiens tout d'abord, qui avaient fait de la stricte observance de la loi leur credo, mais aussi les prêtres et les légistes qui voient la religion traditionnelle attaquée dans ses fondements par ces prophètes virulents qui renversent les tables des changeurs de monnaie, fonction pourtant indispensable à l'accomplissement du sacrifice. Jésus teste chez ses auditeurs l'attachement au cœur de la loi, à son esprit et non à la lettre. Par ses gestes provocateurs, il libère d'un attachement légaliste et montre la voie d'une obéissance à Dieu en esprit et en vérité. Ce que Jésus accomplit à ce moment-là, nous devons nous aussi aujourd'hui l'actualiser en nous méfiant de notre rigidité par rapport aux rites, par rapport aux pratiques. Il y a une liberté de l'esprit instaurée par le souffle du Christ sur le monde qui doit transformer nos comportements et les rendre plus transparents à cette parole qui veut faire de nous des sœurs et des frères, créateurs de vie.